Simón, descubrimos que no tenemos nada. Te voy a pedir tu certificado de discapacidad.
No tengo.
El primer paso es desde acá. Después, vamos a ir al hospital. Cuanto más tanto parezcas, mejor.
Dámelo.
Estoy filmando.
Dámelo.
¿Cómo me está saliendo?
Bien. 3.5 estrellas.
¿Me vas a decir ahora mismo qué hacías en ese lugar?
Yo no tengo que explicarte nada.
Como estás empastillado, no te importa nada.
Simon, 21 ans, travaille avec son beau-père comme aide des ménageurs. Quand on le rencontre dans une première scène venteuse, il est avec un groupe de jeunes gens, tous porteurs d'un handicap. Ses filles et ses garçons vont devenir ses amis. Et à leur contact, Simon semble se découvrir différent lui aussi. Un premier aviron rapide, Antoine. Qu'avez-vous pensé de Simon de la Montagna?
C'est un film un peu brumeux qui aurait gagné peut-être à l'être beaucoup plus. C'est un film qui voudrait être méchant, mais qui en fait est très gentil.
Muriel, même exercice.
Tout comme Antoine. Et puis j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup vu ce film. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est, c'est un film qui est vraiment qui est formaté, qui est vraiment une forme qu'on a déjà vue et qu'on voit à intervalles réguliers au cinéma.
Alors Antoine, peut-être pour commencer ce débat, comment Federico Luis filme cette question du handicap?
Alors déjà, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il ne filme pas vraiment la question du handicap. Il filme un personnage qui est le Simone du titre, qui lui voudrait effectivement avoir un autre statut que celui qui est le sien. C'est un film qui commence assez formidablement. Enfin, cette scène de tempête sur un mont comme ça de la cordillère des Andes est assez spectaculaire, assez mystérieuse aussi, puisqu'on ne sait pas trop qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui se passe. Et on aurait aimé que le film soit porté justement par ce souffle en permanence. Il l'est par moments, pas toujours. Voilà, c'est un peu le souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a au sommet de cette montagne? Il y a quand même une grande statue du Christ que le Simone en question va embrasser. Et évidemment, tout le film est porté par cette sorte de... On dirait presque une fable, un peu, qu'aurait pu raconter le Christ sur une montagne, sur le mode de heureux les simples d'esprit. Donc, on est vraiment sur ce regard très sympathique, empathique, porté sur les personnes de cette communauté et sur un... Quelqu'un qui voudra y appartenir de toutes ses forces qui va chercher le dérèglement presque physique qui va avec. Donc c'est quelqu'un qui joue un jeu. L'un des intérêts du film, c'est qu'on ne sait jamais trop pourquoi. Enfin, au moins, on sent bien qu'il n'est pas très très bien dans sa famille, qu'il cherche sa place dans la société, et que ce groupe qui est filmé un peu comme Todd Browning pourrait filmer les freaks, c'est-à-dire vraiment à la fois comme des personnages spectaculaires, mais auxquels on a très envie d'appartenir. Il va se chercher une communauté où il peut être. Alors tout ça va passer par des... Vous vous demandez comment c'est filmé. C'est filmé souvent, hormis cette première scène, donc qui est vraiment très, très plan large, on montre la montagne, tout ça. Après, c'est filmé vraiment au plus près des personnages, avec une caméra un peu brinque-ballante, qui se rapproche comme elle peut des personnages qu'elle filme, et avec cette métaphore du personnage qui est vraiment à la fois un voyeur et un écouteur. Donc on voudrait que ce soit le spectateur qui se met à sa place, puisqu'il va emprunter à une copine son appareil auditif, et donc tout d'un coup il va avoir à la fois une hyperacousie et une capacité à transformer ce qu'il entend, notamment quand ses parents, enfin sa mère et son beau-père lui parlent que ça l'emmerde, hop, il tourne un peu son truc et tout d'un coup ça a un avantage, il les entend plus, et par ailleurs il peut entendre extrêmement bien ce qui se passe plus loin, et puis c'est vraiment un personnage de voyeur, il passe son temps à regarder ce qui se passe, y compris des choses peut-être qu'il ne devrait pas voir, ou alors qu'on veut lui montrer, parce que les personnages se donnent en spectacle en permanence, c'est pas pour rien que ce sont des acteurs aussi, on les voit jouer
Roméo et Juliette,
jouer une pièce, voilà. Alors, Là encore, on voudrait que ce soit un peu plus méchant. Il y a des moments où ce regard se fait plus intéressant parce que c'est pas un petit truc en plus. Pour le coup, c'est pas oh là là, ils sont tous formidables et très gentils. Non, ils peuvent aussi avoir des buts cachés. Ils peuvent être manipulateurs. Ils peuvent aussi, pour des raisons de désir sexuel, opérer une certaine forme de chantage. Mais là encore, on voudrait que ça aille un peu plus loin. Quoi. On n'est pas dans le Acción Mutante de Alex de la Iglesia avec ses handicaps. Terroriste, là, au bout du compte, on est quand même très très gentil, quoi.
Muriel, vous êtes d'accord? Vous avez dit formaté tout à l'heure, mais gentil, ça vous va aussi?
Ah oui, très gentillé. Et alors que quand même l'argument principal, bon, du coup, j'ai l'impression qu'on spoil quelque chose, qu'on divulgage quelque chose.
Ça arrive assez vite, quand même.
Voilà, c'est ça. C'est quand même l'argument du film est exactement celui d'un petit truc en plus. Hein, c'est quand même un personnage qui n'est pas handicapé qui se fait passer pour handicapé. Ça, à la base, c'est quelque chose d'assez subversif parce que ça pose forcément la question de, on sait que précisément ce qu'inspire le handicap, c'est la prudence, c'est la peur de mal utiliser les mots, c'est tout ça. Et du coup, le principe de ce scénario, comme de celui d'un petit truc en plus, que moi au passage j'aime beaucoup, c'est de dire, bah en fait on va y aller et puis on va faire le pire truc qui soit, c'est-à-dire prendre un personnage valide et le faire passer pour handicapé. Et le problème, c'est que cette subversion, et je suis tout à fait d'accord avec Antoine, le film n'est pas assez méchant, le film... Même je me suis dit, par rapport au film d'Artus, même si évidemment, faut pas... ça n'a absolument rien à voir, mais c'est que le film oublie même de rire de son personnage et de ce qu'il fait. Ça, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'il est tellement monolithique dans sa manière d'être un film quand même à sujet, et puis d'être aussi... collé au basque de son personnage principal, qu'il oublie que peut-être que dans son scénario, il y a de l'humour, il y a de la méchanceté, voilà, il y a d'autres tonalités.
Peut-être dire un mot sur l'acteur, puisqu'on lui colle au basque.
Moi, j'ai pas d'avis particulier. En fait, le truc, c'est que j'ai pas d'avis particulier sur cet acteur, c'est-à-dire à partir du moment où un film est collé au basque d'un acteur, au bout d'un moment, il devient un peu intéressant. Et moi, c'est le problème de, je disais formaté, parce que c'est une manière d'écrire aujourd'hui des premiers films. Alors, qui consiste précisément, alors on est un peu en fait dans une sorte de poste d'Ardenne qui consiste en fait vraiment à tout voir depuis le regard d'un personnage et surtout à créer de manière très artificielle l'opacité de ce personnage. C'est-à-dire que la seule question que pose le film, c'est mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Que pense-t-il? Pourquoi fait-il ça, sauf que cette question, le problème, c'est que il me semble qu'elle, moi, elle m'a pas intéressée du tout. C'est-à-dire que j'y ai vu un artifice de scénario, et pourquoi il fait ça? Bah, en fait, voilà, tout tient à un artifice où on n'est jamais. Ce n'est qu'une question psychologique et qui n'arrive pas à faire film. Là où ça aurait été plus marrant d'aller chercher quelque chose, de pousser le personnage jusqu'à qu'il devienne méchant, agressif, abusif ou titillant. Un peu sa folie. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi cette manière d'écrire et d'être rivé à un personnage et de ne voir que lui et d'entrer dans la réalité à travers son regard. C'est aussi pour moi une façon de faire qui consiste à s'éviter plein de questions de cinéma.
Comme par exemple
En fait, regarder les gens autour ou essayer de filmer autrement, tout simplement, de faire du plan fixe, de penser le plan autrement. Et j'ai souvent l'impression que quand on ne sait pas vraiment comment mettre son film en scène, eh ben on va faire du Dardenne. Et ça me gêne parce que voilà, j'ai l'impression que depuis les Dardennes, on voit ça à intervalles réguliers, de manière très... cette sorte de course folle comme ça d'un personnage, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Voilà.
Ce qui pourrait être subversif, Antoine, quand même, c'est que finalement, j'ai eu l'impression en regardant ce film que la communauté de ces jeunes gens porteurs de handicap semble plus accueillante, en tout cas plus enviable que la communauté des valides qui est représentée par les parents, par exemple. Donc ça, en soi, ça aurait pu être subversif, mais ça ne l'est pas.
Bah, ça aurait été subversif il y a 10 ans, 20 ans, 40, 50, 100 ans, quoi. C'est-à-dire que ce modèle-là, je parlais des freaks de Todd Browning, c'est un modèle un peu éculé. Donc là maintenant, c'est une question presque de point de vue. Sans doute que le film aurait été vachement plus intéressant s'il prenait le point de vue d'une des personnes de cette communauté. Par exemple, le Pewen, qui est son copain, qui lui apprend à truander les psychiatres pour obtenir les allocations d'action, etc. Tout d'un coup, ça, là, on a un personnage qui est réellement intéressant.
Ou si pour rentrer au cinéma gratuitement.
Ou pour rentrer au cinéma gratuitement. Enfin, voilà, pour avoir ce statut enviable. Sauf que lui, il est réellement. Lui a de vraies raisons de l'être. Et, sauf que c'est celui qui va essayer d'amener les filles dans les toilettes pour baiser, qui va faire plein de petites truanderies comme ça. Et c'est le personnage le plus fascinant du film. Sauf que en nous mettant, selon le dispositif que j'ai décrit tout à l'heure, dans les yeux, dans les oreilles, dans les pas de Simone, on a toujours une extériorité, finalement, par rapport à eux. On ne pourra jamais être complètement eux. Or, le cinéma, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être réellement dans le regard de l'autre, y compris quelque chose de à la fois de dérangeant, de différent, de une vraie expérience de cinéma, quoi.
Là, c'était pas dérangeant, finalement.
Ben, ça l'est jamais, parce qu'on est quand même toujours assez confortable de les regarder de l'extérieur. Le tour de force aurait pu être, en tout cas, il me semble, d'adopter le point de vue, notamment de ce PON ou d'un autre, c'est-à-dire de voir arriver l'étranger qui essaye de s'inclure dedans. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va le rejeter? Est-ce qu'on va le transformer en ce que nous sommes? Et le film, là, aurait été, pour le coup, vraiment passionnant, quoi.
Et l'histoire d'amour entre ce Simone valide et une jeune fille, elle, porteuse de handicap, ça, pareil, il n'y avait pas quelque chose là qui aurait pu être subversif?
C'est ça, pour le coup, c'est le côté teen movie très très mignon, très choupi avec son bonnet voilà de lapin, et donc quand elle tire sur les trucs du bonnet, ça les oreilles du lapin bougent. C'est vraiment limite le truc le plus charmant du film, où on se dit mais il faudrait montrer le film à des ados. Après, je me disais en écoutant toi, j'ai l'impression que le film fonctionne sur quand même un argument de qui me paraît à la base être un problème, c'est-à-dire de dire bon, la frontière entre la normalité et le handicap, elle est plus floue qu'on ne le pense, et puis surtout regarder comme ils sont en gros comme nous. Et en fait, c'est un argument que la plupart des gens ça vient, j'ai l'impression, déshabiller un préjugé qui n'est pas dans la tête du spectateur. Et que en fait, tout ce que le film a nous montré sur le handicap, on sait déjà, ou voilà, il y a quelque chose comme ça où on essaye de... C'est aussi un film, et c'est là où, sur le terrain des représentations, je pense que le film a son intérêt, c'est-à-dire que, enfin, le cinéma, à plein d'endroits différents, dans plein de pays différents, fait entrer des corps et des acteurs qui, avant, n'avaient pas le droit de citer. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt du film. Mais il me semble que, voilà, on insiste beaucoup sur quelque chose duquel on est déjà convaincu, en fait. Et ça, c'est pas que ça me pose problème, mais du coup, c'est là que le film m'intéresse un peu, de moins en moins, plus il avance, voilà. Mais voilà, après, l'histoire d'amour est peut-être la chose la plus charmante du film.
Et formellement, Antoine en a dit un mot, mais le fait que ce personnage principal mette cette oreillette normalement destinée au malentendant, et que nous, spectateurs, on entend ce qu'il choisit d'entendre, donc parfois très fort, parfois plus du tout, en effet, il module son sonotone comme il le souhaite, ça, formellement, est-ce que ça produit quelque chose ?
Pas grand-chose, moi ça m'a pas, si ce n'est nous enfermer à double tour dans la perception de Simone, je vois pas l'intérêt particulier, enfin voilà, cette manière comme ça de filmer le réel depuis, comme si on était dans un aquarium, comme si on regardait un aquarium, c'est là encore pour moi, c'est toujours ce sort de naturalisme comme ça, d'ardénien par défaut, qui fait qu'on ne sort jamais de cette fétichisation du personnage principal, en fait.
Alors peut-être juste pour finir, un dernier mot sur cette très belle scène d'exposition. Vous en avez dit un mot, Antoine, mais peut-être on peut y revenir. C'est les cinq premières minutes du film. On est dans un paysage de nature, il y a tous ces gens-là qui se promènent, qui sont visiblement perdus, il y a un vent terrible, on entend ce vent-là. Pourquoi cette scène-là, elle est quand même très très différente de tout le reste du film?
Oui, et c'est dangereux d'ailleurs de commencer avec une scène d'une telle intensité, parce que tout ce qui viendra après aura l'air un peu en dessous, un peu informe. Muriel Joudet parle des Dardennes, moi j'ai beaucoup pensé aussi, parce que le sujet est proche, aux idiots de Lars von Trier, c'est-à-dire les débuts du dogme, où on en rajoute dans la caméra, foutu un peu n'importe comment, et qui cadre comme elle peut. Je pense que c'est une des sources, il ne le revendique pas tellement, mais enfin c'est les idiots, rappelez-vous, hein, c'est des des gens de la bonne société qui jouaient justement les handicapés mentaux pour déranger la société. Pour le coup, le film provoquait quelque chose de véritablement dérangeant, malaisant, y compris parce que le regard de Lars von Trier était pas très clair là-dessus. C'est, là encore, c'est ce sentiment d'être quand même toujours bien comme il faut et de se dire oui, c'est vrai, ils sont comme nous, mais on veut pas qu'ils soient comme nous. On voudrait nous être comme eux réellement, comme le personnage du film, pour avoir quelque chose de différent. Or, ramener l'hétérogène à l'homogène, ce qui est différent à la normalité, finalement, c'est nier presque ce que sont ces personnages dans leur potentialité dramaturgique, cinématographique et humaine.
Simon de la Montagna de Frédéric Louis sort en salle aujourd'hui.